Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Et bonjour à tous, c'est Marine au micro Cinérama, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Je suis en compagnie de Manu cette semaine et de Manu seulement. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Alors donc Vincent n'est pas là, mais il nous aura quand même laissé une interview de Olivier Gourmet pour L'odeur de la mandarine, un très joli film qui sort cette semaine dont je vais également vous parler. Et puis je vais aussi vous parler de Premier Cru, le nouveau film de Jérôme Lemaire qui n'est pas un grand cru malheureusement. Et quant à toi, Manu, il me semble que tu vas nous parler de jeunes filles qui frappent à la porte et de facteurs qui sonnent toujours deux fois.
Évidemment, enfin effectivement.
Évidemment.
Évidemment. Knock Knock, donc le nouveau film d'Eli Roth. Et puis, Le facteur sonne toujours deux fois, un film noir des années 40.
Alors, par contre, on prononce Knock Knock.
Knock
Manu,
knock.
Je préfère te le dire tout de suite avant que tu le, avant que tu le dises
bah,
mal au moins
15 fois. Sinon.
Hein. C'est Cinérama et ça commence tout de suite justement avec Knock Knock.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, on ne devrait jamais rester seul le jour de la fête des pères. Enfin,
oh,
c'est
non.
Ce que je me suis dit en sortant de Knock Knock, quatrième long métrage d'Eli Roth, petit protégé de Quentin Tarantino et instigateur de la vague des tortures porn avec les deux Hostel. Alors, ce fan de bis a même réalisé un néo-remake du cultissime Cannibal Holocaust, The Green Inferno, qui sort en octobre directement en VOD. Alors, Roth et Doc. Et donc un type, on va dire, recommandable, admirateur du cinéma déviant italien et un mec qui porte au nu, je dirais, un cinéaste comme Umberto Lenzi, que personne ne connaît ici, mais bon. Réalisateur complètement réac, mais super fun du très gore avion de l'apocalypse ou du méga malsain la rançon de la peur, il ne peut pas être tout à fait mauvais.
Bonne fête des pères, papa.
Un gâteau avec des perles multicolores.
Tout le monde est prêt?
Oui.
Je t'aime. Au revoir les enfants.
Au revoir.
Il est là? Oui?
On est désolé de vous déranger, monsieur, mais mon portable a pris l'eau et elle a oublié le sien.
Bon, vous pouvez entrer et utiliser mon téléphone. Les filles, j'ai vos vêtements, ils sont secs maintenant.
Surprise!
Je peux pas faire ça, je suis marié et heureux comme ça.
Oh, si, tu peux le faire, ce sera notre petit secret. Calme-toi et profite.
Regarde ce que j'ai trouvé.
C'est à ma fille, enlève ça.
Elle me va bien, n'est-ce pas, papa?
Qu'est-ce que tu veux?
Jouer à cache-cache. Tu as 30 secondes, tu sors de la maison, je te shoot.
Au secours!
Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas les règles du jeu, Evan.
Je vous ai laissé entrer. Je vous ai rendu service. J'ai été sympa avec tout ça, mon père!
Knock, knock.
Alors, malgré un doublage qu'il faut quand même dire assez catastrophique pour ceux qui l'ont vu en français, hein, Knock Knock commence sous les meilleurs auspices avec, je trouve, une très ironique et décapante présentation de la famille américaine bourgeoise dans toute sa splendeur ou son horreur, la version US de la pub pour la Ricorée. Alors oui, c'est donc le jour de la fête des pères. La caméra mobile traverse une villa infestée de dessins d'enfants et de photos écœurantes de cette famille en or. Elle s'immisce dans la chambre et l'on découvre un couple très amoureux en pleine phase préliminaire de ce que vous savez. Mais comme souvent dans les familles, les enfants, ces sales petits gnomes égoïstes, arrivent en fanfare pour interrompre la fête, enfin du moins celle-ci, pour en célébrer une autre, celle de papa. Frustration évidente de ce dernier qui va passer en plus le week-end tout seul dans la maison parce que madame, une artiste branchée s'inspirant de Gaudi, doit partir pour son travail et emmener les enfants. Alors Evan est un architecte, un petit bourgeois néo-grunge, qui n'a gardé de ses rêves de jeunesse que le réflexe de fumer un petit joint de temps en temps et joué par nostalgie au DJ, son ancien job. Mais aujourd'hui, il est sérieux comme un pape, bien défini dans une case et pas très épanoui ni sur le plan professionnel, ni sur le plan sexuel. La victime toute désignée pour des prédatrices, en somme. Alors, sans subtilité, mais parfois avec efficacité, Ross cerne parfaitement le profil psychologique de l'homme moyen, la quarantaine, plutôt bien conservé, brandissant une cool attitude, mais avec les illusions au fond de la sacoche et le confort paisible d'une vie au long fleuve tranquille. Et ce qui devait arriver, arriva. Un soir de pluie, deux bombasses, donc, telles des sirènes tentatrices, débarquent à l'improviste, faisant mine de s'être perdues. Évidemment, elles le chauffent, le provoquent, et tout cela finit par un plan à trois dans une séquence mécanique alors dénuée de totalement d'érotisme. Alors, un parti pris que je pense volontaire, hein, mais qui en dit long sur la nature du film, hésitant constamment, on va dire, entre la critique sociale confuse, sorte de funny game potage, et le pur cinéma d'exploitation transgressif et racoleur, tel que les Bisseux le pratiquaient dans les 70s. Évidemment, quand Evan se réveille le lendemain matin, les deux succubes sont encore là et sont bien décidés à lui faire payer son infidélité passagère. Et oui, tromper sa femme, c'est mal. En même temps, quand on y réfléchit, qui refuserait une pareille tentation ? Enfin, je ne sais pas, mais moi, non. Enfin, mais ça...
on ne veut pas savoir, Manu.
Mais ça ne risque pas d'arriver que deux bombasses frappent à ta porte
en
comme
effet,
ça.
Non.
C'est totalement,
pas
on est bien
dans
au cinéma. Alors, remake officieux de Death Game, obscur thriller réac et dérangeant avec Sandra Locke, qui est ex-fan de Eastwood, et Colin Camp, qui fait une apparition imposante dans un rôle inutile. Knock Knock déçoit par son manque d'audace, par son refus de choisir son camp et de rester bien à l'abri dans ses conventions pour ne choquer personne. Alors, sur le fond, ce Home Invasion ne sait pas trop quoi faire de ses bonnes idées et au final, on ne sait pas s'il s'agit d'un film féministe, moralisateur, conservateur ou subversif. En fait, rien de tout ça. Hein. Alors, Eli Roth joue au yo-yo avec le sens de son histoire, plus brouillonne qu'ambiguë. Après tout, ce n'est pas grave. Hein. Mais sur la forme, Roth, que l'on a connu plus rentre-dedans avec Cabin Fever et Hostel, est bien timide. Pour rendre hommage au cinéma qu'il vénère, il aurait dû jouer la carte du spectacle décomplexé, cul et sanglant, amoral et excessif. La dernière demi-heure apporte son petit lot de réjouissances, notamment les hilarants croquis et textes sur les tableaux, les dessins des gosses et les photos bien niaises et j'en passe. Mais fort d'un script bancal, voire incohérent, quand les deux jeunes filles ne se revendiquent pas meurtrières alors que la mort du pote d'Eva ne leur a fait ni chaud ni froid, et d'un traitement visuel souvent consensuel, Knock Knock, sans être désagréable, est finalement plutôt un pétard mouillé, dénué d'enjeux et de tensions. Alors en plus, je viens de voir donc l'original, je l'ai vu il y a deux jours, hein, Death Games, qui est sorti en France sous le titre en VHS « Ça peut vous arriver demain ».
Ah, le titre racoleur,
voilà,
à 100%.
Effectivement. Alors force est de constater qu'Eli Roth a réalisé un remake totalement fidèle, sauf la fin, que je ne dévoilerai pas ici si les gens ont envie de voir l'original.
Très bien, eh bien, merci beaucoup Manu. Et maintenant, on va enchaîner sur « Malheur, rien à voir hein, », une bonne histoire de famille, de vin, une bonne histoire bien de chez nous, c'est premier cru. C'est toujours dans Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors sorti, quel heureux hasard pour les Vendanges, premier cru, et le nouveau film de Jérôme Lemaire après Requiem pour une tueuse, son premier film avec Mélanie Laurent, dont personne n'avait entendu parler, hein, et puis bah, on comprend mieux pourquoi maintenant en voyant le second. Bref, dans premier cru, donc, Gérard Lanvin, alias François Maréchal, vigneron en Bourgogne, n'a plus l'énergie ni l'envie de faire du vin. Depuis que sa famille a été séparée par les aléas de la vie, et en particulier depuis que son fils Charlie a refusé de reprendre les vignes de ses ancêtres pour devenir œnologue à Paris. Mais le domaine croule sous les dettes et une famille voisine, rivale depuis toujours, se verrait bien en profiter pour s'accaparer les terres de Maréchal. Charlie est le seul à pouvoir reprendre le domaine et sauver l'honneur de sa famille en essayant de faire de la nouvelle cuvée, un vin d'exception. Mais Charlie sera-t-il capable de travailler la terre, lui qui n'est qu'un Parisien arrogant vivant dans un loft du Marais ? Père et fils sauront-ils travailler main dans la main comme au bon vieux temps ? Bon, je vous rassure tout de suite, oui. Hein. Et le scénario ayant été écrit avec la délicatesse d'une moissonneuse batteuse, vous allez devoir subir un film aussi indigeste qu'un vin de table.
Ici en Bourgogne, il y a deux choses qui sont sacrées. La première, c'est de faire le meilleur vin possible pour honorer la terre. Et la deuxième, c'est la transmission.
Monsieur Maréchal, vu l'état financier de l'entreprise, vous allez être placé sous tutelle judiciaire.
On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Tes vignes, tu les mérites plus.
T'en fous plus une, papa, il est juste là le problème.
Oh, faire du vin pour moi, ça n'avait de sens que quand on était une famille.
T'as des nouvelles de Charlie ?
Pas souvent.
Je m'inquiète pour les enfants, c'est aussi un peu à eux ce domaine.
C'est dingue, vous m'avez rien dit.
Ça aurait changé quoi, tes pavignons ?
Vendange trop mûr, 8 sur 20.
Ça marche votre truc ? 150 mètres carrés en plein cœur du Marais, voiture de luxe et assistante en Chanel.
Si tu laisses faire, on va tout vendre.
Vous faites tout en douce depuis 15 ans et maintenant que ça dérape, c'est à moi de réparer ?
T'en as pour un an, maxi, Charlie.
Ce métier, tu le connais pas. Tu l'as même jamais appris.
Tu vas m'aider ?
La vigne, j'ai plus envie.
Papa, tout seul, j'y arriverai pas.
On m'a vinifié comme à l'époque.
D'abord la technique, d'avant la chimie.
Et tu vas les élever dans quoi, tes mains malins? Dans des amphores comme les Romains?
Tu devrais rentrer chez toi, Charlie. Ici, tu perds ton temps, tu me fais perdre le mien.
De toute façon, maintenant, c'est qui tout double.
Tu savais ce qu'il disait, Gandhi? Au début, il t'ignore, après, il se moque, mais à la fin, il t'imite.
Et j'ai du vin, Gandhi?
Ça va marcher, je te dis.
J'espère, parce que sinon, on va se foutre de nos gueules jusqu'à la fin de nos jours.
Tu crois qu'ils vont être bons, les vins de Charlie?
Je sais pas, j'ai pas le droit de les goûter.
Et oui, en effet, comme ils disent dans la bande-annonce, on va se foutre de leur gueule jusqu'à la fin de leur jour. Car Jérôme Lemaire a bien du mal à tenir une caméra, encore plus à raconter une histoire. Il filme les scènes d'amour comme des téléfilms érotiques, hein, ceux qui faisaient les belles heures de M6 en 90, et les paysages de la Bourgogne comme une publicité pour des vins bon marché, mélangeant le tout dans un montage totalement arythmique qui achève de rendre l'ensemble d'une lourdeur absolue. Dans Premier Cru, on exalte les vraies valeurs françaises, la famille, la terre, le vin, l'adultère, hein, qui est aussi une valeur très française, au point que l'idéologie du film a parfois des relents un peu rances. On nous rabâche un discours bien plombant sur la transmission, l'héritage, l'appartenance à une terre, le retour aux sources, le tout accentué par une musique qui aurait pu être composée pour une série télé estivale. D'ailleurs, le film n'est pas plus que ça, hein, une sorte de feuilleton bien franco-français que l'on aurait volontiers imaginé passer sur France 2 au mois d'août. Il est également empreint d'un discours très conservateur et insupportablement manichéen sur le contraste entre le rat des villes et le rat des champs. Alors on oppose d'un côté l'œnologue parisien dont le métier semble extrêmement facile, hein, bah oui, parce que c'est bien connu, être œnologue c'est ultra simple, il suffit de plonger son nez dans son verre, hein, et de sortir quelques adjectifs comme ça, fruité, tannique, arôme de cèpe grillé. Bon, alors que par opposition, le métier d'agriculteur, lui, est noble, porteur de vraies valeurs, pas comme ces bourgeois de la capitale. Et en définitive, eh bien, il est quand même de très mauvaise foi, hein, quand même pour un film qui fait l'éloge de l'artisanat, de l'authenticité et du fait main d'être aussi bâclé, aussi lisse et sans âme. Alors heureusement, quand même, c'est ce qui sauve un tout petit peu le film, les acteurs sont excellents. Lanvin, Laura Smet et bien sûr Jalil l'espère qu'il s'en sort parfaitement, mais je ne suis pas objectif parce que pour moi, il est toujours parfait.
C'est pour ça que voilà. T'allais le voir le film.
C'est juste pour ça, c'est bien. Uniquement pour lui parce que je pensais que du coup, c'était juste une preuve voilà, que le film allait être de qualité, je me suis trompée. Bon bah voilà donc, hein, en conclusion, Premier Cru c'est un film vraiment à éviter et puis qui ose encore finir un film sur un plan de deux personnes qui s'embrassent au ralenti, qui plus est dans un champ? Je pense qu'on ne fait plus ça depuis Hélène et les garçons, enfin c'est vraiment, moi ça m'a complètement outré qu'on ose finir un film pareil, un film français sur un plan comme ça. Donc voilà, ça aura juste le mérite, hein, de vous donner envie, bah, de vous servir un bon verre de vin, mais en même temps une salle de ciné c'est pas forcément très approprié pour ça. Donc autant le voir chez vous. Premier Cru, un film à ne pas voir. Et on continue Cinérama maintenant avec, après le goût du Bourgogne, l'odeur de la mandarine.
À quoi sommes-nous confrontés?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi?
Ouf. Alors que la Première Guerre mondiale fait encore rage non loin de Compiègne, une jeune femme, Angèle, arrive dans la propriété de l'officier Charles afin de proposer ses services d'infirmière. Il a perdu sa jambe à la guerre, elle y a perdu l'amour de sa vie, et tous deux vont apprendre à se connaître, à soigner les blessures de l'autre. Derrière ce scénario presque classique se dessine peu à peu une histoire d'amour hors norme, comme on n'en voit pas assez au cinéma. Ces deux personnages, abîmés par la vie, deviennent complices, puis amis, et finalement, mari et femme. Mais Angèle, toujours hantée par le souvenir de son amour perdu, met des conditions à ce mariage, préférant garder son indépendance, privilégiant la raison au sentiment. Scénario original, ce qui est assez rare pour être souligné, l'odeur de la mandarine réussit parfaitement à mélanger drame sans être mélodramatique, film d'amour sans être mièvre et film historique sans entrer dans le domaine un peu casse-gueule de la reconstitution. L'odeur de la mandarine est un beau film, à la fois très littéraire et très vivant, sur le désir. Le titre fait d'ailleurs référence aux sécrétions vaginales d'une jument dans le film. Hein. Bon, voilà, il faut le savoir. Habité par un personnage de femme, comme on en voit assez peu d'ailleurs, un personnage moderne, presque anachronique, et interprété par une actrice de la comédie française, Georgia Scalier, qui, malgré son phrasé un peu crispant, hein, habite le film avec beaucoup de fraîcheur. À ses côtés, Olivier Gourmet, et comme toujours, on ne peut plus juste. Et les paysages de la Picardie sont enfin filmés comme ils le méritent, car oui, la Picardie peut être photogénique. Et d'ailleurs, justement, nous allons écouter une interview de Olivier Gourmet réalisée à l'occasion de l'avant-première du film. Vous allez voir, ça fait du bien d'entendre un comédien qui sait parler, hein, et qui parle extrêmement bien de ses projets. C'est Vincent Pourageau, donc bah, Vincent qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a fait le montage de cette interview. Et on remercie également chaleureusement notre collège de ML Actu, Thibaut Vasiolek, qui a réalisé la prise de son et qui nous l'a transmise.
je viens pour l'annonce. Je suis infirmière. Ma fille, Louise.
Le père est au fond.
Il y était, il y est resté.
Un vrai travail sur les dialogues et une certaine légèreté sur les dialogues. Donc beaucoup d'humour dans les dialogues, dans les réparties entre l'un et l'autre. Et c'était intéressant dans le film parce que c'est quand même une époque noire. C'est une histoire d'amour difficile, compliquée. Presque un drame, et cette légèreté dans les dialogues amenait, évitait de tomber dans le pathos et dans un film noir, et plutôt dans quelque chose de léger, dans quelque chose de plus romanesque, plus littéraire quelque part. Mais c'est le côté, la singularité du film de Gilles, c'est celui-là, entre autres, et ces dialogues ont servi beaucoup.
Merci, mademoiselle.
Angèle, évitez de brandir votre moignon quand une femme approche, ça pourrait prêter à confusion.
Quand vous êtes arrivé ici, tout était vide. Et pourtant, vous êtes si vivante que vous avez rempli tous les vides.
Alors, le film est essentiellement basé sur le désir féminin et masculin, les différences et les difficultés de s'accorder, surtout quand on est une jeune femme en deuil et un homme d'un certain âge ayant perdu une partie de sa jambe, donc de sa virilité quelque part. Il y avait cette volonté du désir, donc, et la nature, je pense, elle a quelque chose qui sent le désir, la sensualité. On le dit, on vient tous de la nature, on vient tous de l'eau. Chaque chose dans la nature est probablement issue d'une même cellule. Donc la nature rappelle ce désir, incite ce désir. Il y a le cerf, il y a les chevaux. Et donc la nature était importante dans le film. Et c'est vrai que comme elle est en arrière-front, juste avant en Picardie, juste avant la ligne de front, cette nature est jolie. Elle n'a pas été atteinte par la guerre. Et donc et elle a été magnifiquement filmée par Yvan Gélo parce que la lumière est très belle. Il y avait cette volonté aussi dans cet esprit romanesque et de légèreté, d'amener de la couleur, d'amener de la poésie, d'amener voilà, la nature et quelque chose, une sérénité.
J'aime un autre homme dans mon cœur, dans ma chair. C'est à lui que j'appartiens.
À un détail près, moi je suis là, mutilé mais vivant. Ça s'appelle le deuil. Ça dure ce que ça dure et ça passe.
Ce que vous attendez de moi ne m'appartient pas. Je ne peux pas vous le donner.
Georgia, c'est comédienne de théâtre, la Comédie Française, Société de la Comédie Française. C'est quelqu'un qui avait la maturité pour le rôle et la singularité, et la féminité, la force, la liberté, la sincérité. C'était important. On avait fait plusieurs essais avec d'autres comédiennes plus jeunes. Et puis Georgia s'est imposée parce qu'elle a une vraie singularité. Elle a quelque chose qui lui appartient et elle essaie de ressembler à personne d'autre. Elle a des influences comme tout le monde sûrement chez d'autres, pour d'autres acteurs. Il y a toujours une influence par rapport à son partenaire. C'est le béaba, c'est pas toujours le cas, mais le béaba du cinéma, une fois sur le plateau, c'est d'écouter d'abord son partenaire et de voir ce qu'il vous donne et de répondre en fonction de ce qu'il vous donne. Donc de travailler ensemble en connivence et en... Et avec Georgia, elle a la pratique aussi, elle fait du théâtre, donc elle sait ce que c'est. C'était facile. C'est une fille simple et normale, et on a discuté avant sur les scènes de lit et de sexe, et pour ôter la peur et savoir que ni l'un ni l'autre, on ne s'abîmerait ou on ne toucherait à l'intimité de l'autre sans qu'on en ait parlé avant.
Vous auriez au moins pu faire semblant. Beaucoup de femmes le font.
Pas moi. Question d'honnêteté.
Le sentiment amoureux est pour moi, il y a j'ai plus de difficultés, on va dire, mais je pense que c'est plus une difficulté d'esprit. C'est-à-dire que quand je dois trouver la colère ou d'autres émotions, dans les écoles, ça dépend des écoles qu'on a fait, mais dans l'école que j'ai fait, on travaillait beaucoup sur essayer de retrouver une vraie colère, pour être au plus près, pas la simuler, mais être réellement en colère, tout en sachant qu'il y a une distance, c'est toujours du cinéma. Mais pour être au plus près d'une certaine vérité. Et le sentiment amoureux, pour moi, c'était un peu plus complexe parce que on a quand même toujours une personne en face à qui on dit on a tout de suite le regard qui est renvoyé et on sait que quand on lui dit je t'aime, ce n'est pas vrai. Par contre, quand je peux rentrer en colère, je peux vraiment être en colère contre mon partenaire parce qu'il m'a poussé à bout. Enfin, le rôle. Et je sais aussi que c'est faux, mais c'est pas pareil. Enfin, pour moi, mais c'est peut-être un petit blocage. Donc j'avais envie de me confronter à ça et de voir, parce que j'adore explorer l'âme humaine et le sentiment amoureux. J'avais pas vraiment encore eu l'occasion de le faire sur tout un film, sur certains petits moments dans d'autres films, dans d'autres rôles, oui, mais voilà, et ça m'amusait. J'étais content de pouvoir explorer ça.
Vous avez décidé que ça ne pouvait pas marcher avec moi. Et à chaque fois qu'on couche ensemble, c'est comme une preuve de plus pour vous. Et une défaite de plus pour moi. On a toujours envie d'aller vers des choses qu'on n'a pas encore faites, juste pour retrouver du plaisir et pas refaire la même chose. Donc c'était quelque chose de neuf, et comme tout ce qui est neuf, souvent c'est un peu plus excitant.
La plus belle chose que vous puissiez m'offrir, c'est vous. Sans fantôme, sans défense.
Voilà, donc c'était Olivier Gourmet, une interview montée par Vincent. Et encore une fois, on dit merci à notre collègue Thibaut Vaziolek pour le son. C'est toujours Cinérama. Et maintenant, on va enchaîner avec Le Facteur qui sonne toujours deux fois.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors écrit en 1934, Le Facteur sonne toujours deux fois de James Cain est assurément un des chefs-d'œuvre du roman noir et surtout un des romans les plus populaires du genre. Alors le cinéma s'est intéressé à ce classique à plusieurs reprises. La première adaptation, Le Grand Tournant de Pierre Chenal avec Michel Simon, s'inscrit dans une tradition plus classique du film policier français, tandis que Obsession, Les Amants Diaboliques de Visconti, s'inspire du récit pour l'ancrer dans une veine profondément néo-réaliste. Tay Garnett, vieux routier alors du cinéma, puisqu'il travailla au temps du muet, ne semblait pas de prime abord le réalisateur adéquat pour se confronter à l'univers sombre et désenchanté de James Cain. Auteur aussi d'un autre très grand classique, Assurance sur la mort, immortalisé à l'écran par Billy Wilder et le couple Fred McMurray et Barbara Stanwyck. Alors il est surtout connu pour ses drames passionnels et ses comédies romantiques, et pourtant, Le Facteur sonne toujours deux fois est assurément l'un des plus beaux films noirs de l'histoire du cinéma, une histoire d'amour ambiguë et poignante, loin du manichéisme dont fait preuve certaines productions hollywoodiennes. Vagabond ténébreux sans attache, Frank s'arrête dans un restaurant où il rencontre le patron, Nick Smith. Ce dernier, à la recherche d'un employé, l'engage donc, qui, hésitant dans un premier temps, finit par accepter. Il fait la connaissance de Cora, la femme de Nick, plus jeune d'au moins 20 ans. Frank et Cora tombent, évidemment, éperdument amoureux l'un de l'autre. Entraînés par une passion démesurée et incontrôlable, Cora ne voit plus qu'une solution pour que leur amour perdure, supprimer Nick. Ils élaborent un plan, mais évidemment, rien ne se passe tout à fait comme prévu. Alors, Le Facteur est avant tout un film de personnages hantés et habités, comme rarement le cinéma hollywoodien a su mettre en valeur. John Garfield, en Bad Boy au grand cœur, possède une fragilité et une absence de cynisme qui tranche avec l'anti-héros classique du film noir. Même sa lâcheté temporaire apparaît comme une marque de faiblesse émouvante. La première apparition de Cora est assez singulière. En petit short blanc, tenue bien légère pour l'époque, elle n'évoque pas du tout l'archétype de la femme fatale, ce qu'elle n'est pas, contrairement à ce que j'ai suggéré il y a deux semaines. Mais bon, tu n'étais pas là, Marie.
Je n'étais pas là.
J'avais pas revu le film et j'avais dit que le carnet typiquement la femme fatale, or pas du tout. Mais elle est tiraillée entre son attirance naturelle pour Frank et son besoin de sécurité financière. Alors, elle n'arrive pas en fait à choisir entre les deux et Lana Turner, donc l'actrice, importe en elle toute cette complexité d'un des plus beaux personnages féminins du cinéma qui n'a rien en fait de ce qu'on appelle la menthe religieuse habituelle du cinéma noir. Les séquences extérieures et nocturnes essentiellement témoignent du tumulte intérieur qui agite les personnages pris dans un tourbillon de sentiments contradictoires et pulsionnels. La sérénité des promenades sur la plage, au contraire, symbole d'une osmose parfaite dans la relation amoureuse, se cogne à la violence explosive de l'accident de voiture qui frappe par sa puissance visuelle et son intensité dramatique. Les émotions exacerbées du couple illégitime sont symbolisées par des images fortes qui culminent lors de cette ultime déclaration dans la mer, l'une des plus belles et déchirantes de toute l'histoire du cinéma. Alors, Garnett ne juge pas ses amants, non pas diaboliques, mais unis par une relation, on va dire, fusionnelle que la morale des hommes ne peut comprendre. Seule, comme le suggère une fin toutefois too much, pour expliquer le titre, hein, la justice immanente compte. Alors plus simplement, hein, un amour aussi intense n'a pas sa place sur Terre, ou du moins dans un monde régi par la morale et les lois. Alors Le Facteur sonne toujours deux fois est avant tout un mélodrame magnifique qui déjoue les rouages de l'intrigue habituelle centrée autour de la figure triangulaire de la femme, du mari et de l'amant. L'issue est la même, mais les motivations des protagonistes moins vénales. Mais la méchanceté et la noirceur reprendront ses droits dans l'admirable assurance sur la mort du même James Cain. Alors c'est un très bon film noir qui est disponible en DVD assez facilement. Et juste pour info, le titre, Le Facteur sonne toujours deux fois, a été rajouté après par James Cain parce qu'il attendait toujours du facteur qui lui envoie une réponse à son manuscrit. Et il attendait toujours une deuxième fois qu'il revienne en disant « J'ai oublié, vous avez une réponse de votre éditeur ». Enfin voilà, c'est ceci expliquant le titre.
D'accord, très bien. Merci Manu. Ben justement, en parlant de DVD, nous avons droit à un petit bonus dans Cinérama. De quoi tu vas nous parler ?
Alors, de Dracula contre Frankenstein.
Merci Manu. Bien, c'est Cinérama et on enchaîne tout de suite.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique !
Des extraterrestres belliqueux ont l'idée classique de conquérir la Terre selon une méthode pour le moins saugrenue et tortueuse. Ils vont ressusciter deux scientifiques, dont le très fatigué Michael Rennie, Klaatu dans Le jour où la Terre s'arrêta, un classique de la SF des années 50, qui ont donc pour mission de ramener d'entre les morts les grands monstres nourrissant l'imagerie collective des hommes. Le loup-garou, la momie, Frankenstein, enfin la créature, parce que souvent on confond, et Dracula. Alors l'être humain étant idiot et superstitieux, le plan des envahisseurs semble imparable. Mais ayant découvert le stratagème diabolique, l'inspecteur Toberman va tenter de déjouer leurs attaques. Alors en lisant le synopsis comme ça, hein, toute personne normalement constituée va penser qu'il s'agit d'une couillonnade des extraterrestres qui ramènent les fameux monstres de la Universal, qui d'ailleurs ne portent pas leur vrai nom respectif dans le film, probablement pour des raisons de droit, hein, afin de s'emparer de la Terre. Franchement, qui peut croire une seconde à un tel pitch sans piquer un fou rire ? Alors sans trop m'avancer, au moins une figure emblématique du cinéma bis espagnol en est capable, Paul Naschy alias Jacinto Molina, ici scénariste et véritable auteur du film. Alors grand admirateur de l'âge d'or du cinéma fantastique des années 30, Naschy est une personnalité touchante de l'industrie, un artisan qui croit dur comme fer à ses histoires abracadabrantes. Car ne vous y trompez pas, Dracula contre Frankenstein n'est pas une parodie, un pastiche ridiculisant certaines icônes. Il s'agit d'un hommage révérencieux aux monstres qui ont nourri l'enfance de bien des cinéphiles. On peut trouver la démarche ridicule, mais la candeur et la sincérité touchante du métrage forcent le respect. Alors Naschy reprend son personnage de Waldemar Daninsky, qu'il avait incarné par deux fois précédemment dans Les Vampires du Docteur Dracula et Las Noches del Hombre. Waldemar est à nouveau ce loup-garou damné, souffrant de sa fatale condition. Naschy donne beaucoup de lui-même en interprétant cette silhouette poilue, importante du cinéma espagnol. Les autres monstres sont un peu sacrifiés, ce qui n'enlève pas le plaisir que procure cette rareté, plus Z que B quand même. Hein. Alors derrière la caméra, on retrouve deux réalisateurs. Officiellement, Tullio De Micheli est l'auteur du film. De façon plus officielle, Hugo Fregones aurait, selon les dires, réalisé plus de 70% du film, laissant à son compatriote argentin le soin de le terminer. Alors retrouver Fregones derrière un projet aussi aberrant a de quoi laisser perplexe quand on connaît la carrière du cinéaste aux États-Unis, auteur de quelques remarquables films noirs, L'impasse maudite ou L'étrange Mr. Slade, et d'un étonnant western, Le souffle sauvage, avec tout de même James Stewart et Barbara Stanwyck. Alors Tullio De Micheli est lui aussi un honnête artisan, un staccanoviste de la pellicule, à qui l'on doit quand même une cinquantaine de films. Et pour couronner le tout, il y a même un troisième réalisateur derrière, un Allemand, Eberhard Meichner, je ne sais pas, un illustre inconnu, hein, qui aurait lui aussi tourné quelques séquences. Alors tout ça donne donc Dracula contre Frankenstein, qui ne porte pas la personnalité des auteurs, mais demeure soigné visuellement à défaut de bénéficier d'une mise en scène inspirée. Alors filmé dans un beau scope valorisant des décors magnifiques, dont le fameux château du docteur Orloff de Jess Franco, ce mix de SF et de films d'épouvante classiques souffre d'un rythme quand même languissant, de séquences de comédie pesantes, notamment les scènes où l'enquêteur séduit la jolie héroïne, de maquillage grotesque et d'une interprétation inexistante, mais procure malgré tout un plaisir communicatif pour tout cinéphile nostalgique de l'époque révolue. Alors le dernier quart d'heure, hein, qui voit s'affronter les monstres entre eux, est un grand moment d'anthologie, de cinéma bis, plus touchant que déviant, hein, de toute façon. Hein. Alors le titre français est aussi une imposture, une facilité des distributeurs, hein, Dracula ne combattant pas Frankenstein, à ne pas confondre avec les films aussi de Dal Adamson et de Jess Franco qui portent aussi le même nom. Donc voilà, le film est édité par l'éditeur Artus et le film est disponible depuis une quinzaine de jours, voire un mois à peu près.
Merci Manu pour ce bonus et sur ce, s'achève Cinérama.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, moi, je vous parlerai de Maryland, le nouveau film avec Mathias Schoenert, ainsi que du nouveau film avec Manu Payet. Un début prometteur, quant à toi, Manu.
Certainement, vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa. Si j'ai un peu de temps, je parlerai aussi de de Chien d'Enragé, pas Chien Enragé, Enragé, qui est le remake de Chien Enragé de Mario Bava. Et film noir, Ultime Razzia.
À la semaine prochaine.
Il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.